repérage du bibliothécaire.
Bonjour Benigno, comment vas-tu?
Eh bien Marc, je vais bien. C'est cette journée ensoleillée, toi, comment ça va? Tu profites bien du soleil?
Bah oui, et puis les petits oiseaux recommencent à chanter, ça fait plaisir.
Exactement, les oiseaux chantent et puis nos lecteurs lisent.
Bah, c'est ce qui compte. Ça.
Et puis exactement, donc on va un petit peu faire un petit tour, comme d'habitude, de ce qu'il y a... Dans notre numéro présent, le 133, et puis aussi de ce qui est en chantier, et puis de ce qu'on aimerait qu'il soit lu, n'est-ce pas? Et puis, alors, ce mois-ci, évidemment, il y a une bonne soixantaine de nouveautés, mais il y a trois livres auxquels je vais m'attarder juste quelques instants, parce que je trouve que ce sont des livres qui ont chacun dans son domaine une grande richesse et qui vont plaire et aussi faire réfléchir et faire un peu rêver parfois et parfois le contraire. Alors il y a trois livres qui sont très différents. Le premier, les titres en anglais, ça c'est une petite mode qui, mais en même temps c'est aussi une difficulté de traduire des titres qui ont certains éditeurs français depuis un certain temps, ils traduisent pas les titres. Parfois parce que c'est le nom d'un endroit, évidemment, mais parfois parce qu'ils trouvent que ça sonne mieux. Bref, le livre en question, le premier dont je vais parler, s'appelle What a Chip Down, qui est un livre d'un anglais qui s'appelle Richard Adams, et qu'on peut trouver chez nous avec le numéro 33955. En plus, c'est facile parce que c'est le premier sur la liste. Et puis, c'est un livre qui aurait pu être mis en tant que roman animalier. Je ne l'ai pas mis là. Parce que c'est l'histoire, en principe, des deux personnages de lapins, en fait, mais qui vont vivre des aventures. Il y a un monde de lapins, il y a une sorte de, il y a un royaume, il y a des coups durs, des coups bas, des tentatives de meurtre, de survie, des grandes aventures, et des peurs, il y a beaucoup de tendresse aussi, mais c'est un monde tellement riche, et en plus l'auteur les contrebalance en mettant dans chaque exergue des chapitres, des citations, de l'antiquité grecque, classique, etc., pour donner l'ambiance. Donc c'est un livre qui dépasse les pur roman animalier pour devenir un roman d'initiation, un roman d'aventure, un roman de réflexion. Donc c'est un livre qui va passionner les plus grands, les jeunes aussi éventuellement, chacun va le prendre à sa manière et va certainement plaire et peut-être même soulever une légère larme parfois. Alors c'est un récit qui est considéré comme un classique hein, dans la littérature anglaise du XXe siècle. Ça c'est pour un de ces livres, donc What a Chip Down de Richard Adams. Et puis les deuxièmes, donc je vais parler des trois, je vais m'attarder un petit peu dans ce qui est, parce que même si c'est très riche cette version de ces numéros de BSR Actu, il y a ces trois romans que je trouvais bien de mettre en évidence. Et il y a un autre livre qui a gagné un des prix littéraires, bon c'est pas parce qu'il a gagné un prix littéraire, en l'occurrence c'est le prix le plus déjanté. Et des prix littéraires, c'est le prix des fleurs qui est donné, dont la récompense, c'est d'un verre des pouillis fumés pendant une année gratuitement au café de fleurs. Donc c'est assez drôle déjà ça. Mais les livres en question, c'est un livre qui est drôle, intelligent et profond en même temps. Et il s'appelle Double nationalité. Et l'auteur, c'est une femme, une jeune femme, Nina Jarzekov, qui est d'origine hongroise. Et donc ses parents sont hongrois, elle est née en France et ses livres parlent, c'est raconté en plus un exploit du point de vue technique parce que les livres entiers qu'il fait, disons en tant que page, c'est 180 pages, donc ça fait un nombre d'heures respectable et considérable, et raconte à la deuxième personne, donc c'est pas évident, et donc ça fait 18 heures de lecture. Et il raconte, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve soudainement dans un aéroport à Paris. Elle ne sait même pas que c'est un aéroport, elle pense que c'est les galeries Lafayette. Et elle ne sait pas qui elle est, ni d'où elle vient. Elle pense qu'au début, qu'elle est une prostituée de l'Est. Après, elle pense qu'elle est une espionne. Après, elle pense qu'elle est une femme qui s'est mariée avec un Français. Elle ne sait pas très bien qui elle est. Et tout le livre se passe. Et avec cette jeune femme qui essaye de faire une sorte de quête de détectivesque sur elle-même pour savoir qui elle est. Et en même temps, à travers cela, à beaucoup d'humour, à beaucoup de parfois des finesses dans la manière de raconter, et parfois avec tendresse, parfois avec plus de sérieux, c'est une analyse sur la position de quelqu'un qui justement qui a une double appartenance culturelle, nationale, linguistique, et comment tout cela se vit. Parfois douloureusement, parfois avec légèreté et toutes les difficultés que pourrait rencontrer quelqu'un qui se trouve dans cette situation. Et une thématique qui est très actuelle. Et étonnamment, ça se lit, ça s'écoute avec beaucoup de plaisir. Parce qu'on s'est dit, voilà, un livre immense, comme ça, à 18h, raconté à la deuxième personne, etc. Mais c'est extrêmement intelligemment écrit par cette jeune Nina Jarjekov. Donc c'est un plaisir de lecture. C'est les 33961 comme numéro, pour une fois, le prix, un prix littéraire, qui vraiment, c'est le prix de fleurs en plus. Donc ça correspond bien à la tonalité de l'ouvrage. Ça, c'est pour ce livre-là.
Petite remarque, oui. L'auteur, elle boit ou pas?
Et je pense. Alors, elle est dans sa petite autobiographie qu'elle met dans la maison d'édition. Et Paul, donc la PEL, elle dit qu'elle aime les tartes à la crème. Elle voulait être espionne. Mais du coup, elle a refusé parce que suite à la chute du bloc de l'Est, tout ça, ça rapportait pas trop d'être espionne. Et j'ai la soupçonne d'aimer quand même les poulets fumés, j'imagine, ouais.
Oh, j'espère pour elle, parce qu'un verre par jour. Pour...
oui. Bon, peut-être que tu peux cumuler, si tu vois pas pendant 2 semaines, après tu peux te prendre une bouteille, je sais pas. Ça, c'est possible. Alors, écoute, alors voilà, ça c'est le deuxième livre de cette Nina, qui a écrit 2 autres bouquins. Et puis, donc là, on sort de la France et de l'Europe. Là, c'est double nationalité. Il y a 2 pays. Il y a la France et puis il y a un pays qui est mythique, un peu Israël, qui s'appelle la Yazigi. Après, on va voir que ça correspond un petit peu à la Hongrie. Mais parce qu'elle est d'origine hongroise, justement. Et bref, le troisième livre dont je voulais parler, c'est un livre que j'avais mentionné brièvement quand on l'avait acheté pour le faire lire et qui est vraiment au cœur de l'actualité. C'est un livre écrit par un Américain. Il a été écrit à la fin des années 30. Et l'auteur, c'est Sinclair Lewis. Donc, c'est un auteur qui a gagné le prix Nobel. C'est un auteur réputé américain. Et bien, en l'occurrence, ce livre, qui s'appelle Impossible ici, donc, c'est ce qu'on appelle une dystopie. Vous savez ce que c'est une dystopie? C'est une sorte des livres, des romans ou autres qui racontent une réalité parallèle, donc que ce soit spatiale ou temporelle, c'est ce qui aurait pu se passer si Hitler avait pris le pouvoir, etc. Et en l'occurrence, c'est ça, mais aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a la crise économique, c'est la fin des années 30, début des années 40, il y a les élections aux États-Unis, et puis il y a un monsieur, bon, la seule différence... Et avec la réalité actuelle aux États-Unis, c'est que c'est un démocrate, qu'ils appellent Berzelius Windrip. Et puis, c'est un leader charismatique, un peu bête, mais qui attire les foules, qui attire les masses. Et il triomphe sur ses concurrents un peu plus rationnels. Et il promet. Donc, c'est son principal argument des campagnes, ça se passe dans les débuts des années 40, c'est « on va faire l'Amérique plus grand à nouveau ». Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, « Make America Great Again ». Et donc, avec ça, il promet des lourdes réformes économiques, il promet de casser l'establishment des élites pour donner aux ouvriers américains à nouveau le pouvoir d'achat, etc. Et puis, petit à petit, avec ça, il commence... à museler, bon, il prend le pouvoir déjà, donc il est élu démocratiquement, mais ensuite il commence à essayer de museler les journalistes, la presse, Les critiques, hein. Ils commencent à gangréner les congrès et la Cour suprême. Et ensuite, commence à créer une sorte de milice privée ou d'armées parallèles qui commencent à prendre le pouvoir et qui montent toutes ces pulsions autocratiques et dictatoriales. En même temps, depuis le début, les gens disent « Non, mais ça va pas arriver. Ça, c'est impossible ici. Ici, c'est un pays fort. Et ces choses-là vont pas arriver. Il est allé jusque-là, mais il va pas aller plus loin. Après, il va un petit peu plus loin. On dit « Bon, mais non, mais ça va pas arriver parce que c'est impossible ici. » Puis, il y a un petit personnage qui est un journaliste, justement. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec toute cette histoire aux États-Unis, le journalisme et l'opposition entre la presse, et ce monsieur qui est à la Maison Blanche, et un journaliste qui s'appelle Jessup, et qui est le directeur d'un tout petit journal, et puis qui est lucide. Il n'est pas extrêmement courageux, mais il est lucide, et puis c'est un peu de son point de vue qu'on raconte l'histoire. Et puis les gens disent « Non, c'est impossible, ici on ne peut pas arriver, là, on a des structures juridiques, etc., qui font que ça n'arrivera jamais ». Et puis il dit « Mais au contraire, il n'y a aucun pays qui soit aussi capable d'hystérie collective que l'Amérique ». Et ça, c'est une des sources de tout ce qui peut se passer. Il y a un effet. Et à la fin, il y a même des camps qui sont créés pour mettre les opposants, dont les journalistes, etc. Donc après, les gens s'enfuient au Canada parce que le Canada les reçoit. C'est drôle comme l'actualité a des liens. Donc c'est un livre qui a été écrit à la fin des années 30. Et puis, il faut savoir que la femme de Sinclair Lewis, c'était une journaliste elle-même, et c'est la première européenne, et particulièrement la seule, qui a interviewé Hitler. Et c'est la première aussi qu'il a, avant qu'il prenne vraiment le pouvoir, et c'est la première qu'il a vraiment fait la radiographie d'Hitler, en déjà voyant un peu les dangers qu'il représentait. Donc c'est juste ça, c'est pour l'anecdote. Donc le livre est impossible ici, et puis c'est les 33 947. Voilà, pour parmi les livres qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup évidemment, on laissera nos auditeurs les découvrir. Il y a notamment les mystères de Paris de Jeanne Sue, qui fait donc tous les mystères de Paris. Donc ça fait deux gros volumes de lecture, et un auteur qui a été extrêmement populaire au 19e siècle. Voilà. Alors, ça, c'est pour parmi les livres qui sont disponibles. Donc, il y en a des très bons policiers, des romans historiques, etc. Et puis, évidemment, on pourra parler un tout petit peu, brièvement, de ce qui est un chantier. Hein, ça t'est dit ?
Tout à fait.
Très brièvement. Enfin, on va justement parler d'un livre parmi d'autres, parce qu'il y en a un grand nombre, nos lecteurs et nos lectrices, c'est de vous pour que nos auditeurs aient des bonnes choses à lire. Mais parmi les livres qui sont en chantier, il y en a un qui est d'un auteur qui est d'origine congolaise, qui écrit en France et en français, qui s'appelle l'auteur, donc s'appelle Emmanuel Dongala. Et le livre s'appelle La Sonate à Bridge Tower. Et comme sous-titre, c'est La Sonate Mulatica. Et pour les amateurs de musique, d'histoire et des choses étranges, alors ça sert un livre qui sera très agréable à lire parce que le livre nous apprend déjà d'entrée que la fameuse sonate à Kreutzer de Monsieur Beethoven ne s'appelait pas comme ça vraiment. C'était la sonate à Bridge Tower qui était un jeune musicien métis, donc mulâtre, comme on dit aussi, un violoniste prodige, et qui s'appelait George Breitsauer, qui arrive donc de la Barbade, son père c'est un noir, mais qui s'est fait passer pour un prince d'Abyssinie, parce que ça présente mieux, et puis il ne faut pas oublier que l'esclavage existe encore, etc. Donc, il arrive là-bas, c'est en 1789, donc c'est l'année de la Révolution française, donc il y a toutes ces histoires. Beethoven, donc parce qu'il va à Paris, à Vienne, etc., il fait la connaissance de Beethoven qui lui dédie sa sonate, mais après il se brouille, et c'est pour ça que Beethoven fasse... C'est historique, donc c'est pas une invention. Et après, il re-offre la sonate à Kreutzer, qui ne l'a jamais joué d'ailleurs. Et donc à l'origine, c'était à ces musiciens-là, qu'on appelait les prodiges mulâtres, etc., donc qui était un musicien qui a parcouru l'Europe à l'époque. Et puis donc là, on a tout cet aspect musical, ses proximités avec Beethoven, mais aussi tout ce qui s'est passé en France, à Paris, en 1789, et en Europe. Donc c'est un livre qui est très mouvementé, il y a de l'aventure, il y a de la musique, de la réflexion, et puis on voit toutes ces problématiques de l'esclavage et de comment on essayait de s'en sortir. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des écrivains, il y a des personnages qui étaient acceptés, qui étaient d'origine, qui étaient des métis ou qui avaient des origines un peu métissées, qui devaient porter sur eux un document d'identité, un peu comme bien des années plus tard, d'autres portaient l'étoile jaune, pour les identifier, faute de quoi ils pouvaient avoir un procès et même être vendu comme esclave. Donc c'était assez compliqué à l'époque. Donc ces livres montrent un peu les à travers une histoire qui est romancée, mais c'est un roman historique, toute cette ambiance-là. Donc c'est la sonate à Bristol Ware, elle est en lecture, et puis elle sera disponible bientôt. Donc ça peut être intéressant comme lecture. Voilà. Alors, ça c'est pour ce qui est un chantier. Et puis pour ce qu'on aimerait faire lire, qui trône là sur la table, comme tu sais, la table qui sert aussi un peu de support au son. Ouais. Et ça crée une belle structure pyramidale. Alors, il y a différentes choses, mais parmi les choses qui sont à lire, bon, je vais commencer par une devinette. Voir si tu sais quel est le pays au monde où l'on commet les plus de régicides.
Le plus de régicides.
Ouais. Oh là là. Pour ça, il faut qu'il y ait des rois et des reines, bien sûr.
Il faut qu'il y en ait beaucoup pour en faire le plus.
Exactement, ouais.
Voilà. Un pays d'Afrique, peut-être.
Alors, dis-moi quand tu...
Non,
tu ne le vois pas.
Donne ma langue au chat.
Alors, tu donnes ta langue au chat et tout... je vais te dire, c'est la Suède.
Ah bon?
Et oui, et tu sais pourquoi? C'est parce que c'est le pays où... En fait, j'ai triché un petit peu parce que je ne t'ai pas dit toute la phrase. Je t'ai dit, c'est quel est le pays où l'on commet le plus de régicides littéraires. Parce qu'en fait... Ah. Tous les mois en Suède, il y a une nouvelle reine du polar suédois.
Ah,
et donc un nouveau roi ou une nouvelle reine du polar, il y en a une, et puis après il y en a une autre, puis après une autre. Mmh. Et donc il y a plus de romanciers de polars en Suède que des crimes. Donc c'est et du coup, ils sont un peu jaloux les criminels, j'imagine. Et donc c'est la nouvelle reine du polar suédois, et l'auteur de l'année 2016, bon, toutes ces choses-là qu'on dit, qui s'appelle Emelie Schepp, et le livre s'appelle Marqué à vie. Marqué à vie. Je ne vais pas faire toute l'histoire du livre. Je laisse nos lecteurs. Moi, c'est un polar, donc il y a toute une intrigue. Les découvrir, et puis au lecteur ou à la lectrice qui voudra profiter de ces rois et de ces royaumes, peut-être bref ou plus long, de cette Emelie Schepp. Le livre l'attend là. Et puis, un autre livre qui est aussi une demande. Donc ça, c'est...
Dis-moi. Qu'est-ce qui t'a flashé dans ce nouveau suédois parmi tant d'autres?
Écoute, non, c'est toujours l'intrigue de savoir comment ça peut arriver d'avoir tellement de reines. En plus, elles sont toutes jolies, à part ça. Ça c'est un détail. Hein, ça, c'est pas... Donc, on va pas acheter les livres pour ça. Mais elles sont toutes jolies, elles sont toutes talentueuses. Enfin, plus ou moins talent, mais... Alors, je ne sais pas s'il y a une fabrique, c'est une usine en Suède, une fabrique de rennes, de polar, mais c'est intéressant. Puis bon, là, il y a l'histoire, alors il y a une petite originalité, c'est parce qu'il y a vraiment un crime, hein, ça c'est pas original, mais, et puis les seules empreintes qui pourraient accuser quelqu'un sont celles d'un enfant, puis il y a toute une histoire autour, mais évidemment, les restes, c'est à découvrir.
Suspense.
Exactement. On va laisser le reste à découvrir. Et puis, alors, le deuxième livre qui est proposé en lecture, qui est attendu anxieusement par certains auditeurs, c'est un livre d'un monsieur qui s'appelle Jack Sapir. Et puis, c'est un livre qui est aussi dans l'actualité. Il s'appelle « Souveraineté, démocratie et laïcité ». Et en fait, il analyse, bon, ça se concentre beaucoup sur la France, mais ça touche aussi d'autres pays d'Europe, et la notion de ce qu'est la souveraineté, de ce qui est la notion des nationalités, des nations, des peuples, par rapport à l'ethnie, la religion, la nature politique, la nature historique de la notion des peuples, et tous ces grands débats qui se trouvent, hein, qui traversent l'Europe, et qui touche particulièrement la France en ce moment incertain. Et donc le livre a fait une analyse assez percutante, assez pertinente de toute cette problématique. Il va depuis, il fait une petite analyse historique depuis les origines grecques de cette notion-là de la souveraineté de l'État, etc. Et puis fait un parcours qui est à la fois historique, qui est à la fois politique, sociologique. Et donc c'est un livre qui peut nous éclairer sur la situation actuelle en Europe. Et en plus, c'est une demande, donc il attend anxieusement son lecteur ou sa lectrice. Voilà.
Magnifique. Bon, on n'a plus qu'à souhaiter bonne lecture et bonne découverte.
Mais écoute, des découvertes, il y en aura. Et puis, évidemment, il y aura aussi d'autres livres qui viendront et qui sortiront dans tous les domaines, évidemment, pour le domaine policier, domaine aussi des romans en général. Il y a même des romans érotiques, un auteur qui est... D'ailleurs, on va faire lire, je profite, c'est presque fini, mais et qui n'avait pas été lu, et que c'est un classique un peu... Évidemment, c'est vendu comme les romans du désir féminin, mais c'est un auteur qui est extrêmement respecté et qui s'appelle Erika Jong. Et puis son livre, bon, il vient de sortir un autre, enfin, en français, bien sûr, traduit en français, mais son livre qu'il a fait connaître est aussi à disposition pour lecture, qui s'appelle Les complexes d'Icare. Et puis c'est un peu l'exploration du désir et de la sexualité humaine du point de vue de la femme. D'ailleurs, la préface du livre a été faite par Henri Müller, qui est connu aussi pour penchant pour les sujets. Voilà. Donc, sur cette tonalité chaude comme le printemps. Et voilà. J'ai été remercié.
Merci à toi.
Mais écoute, au plaisir.
À bientôt.